bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. Le gouvernement met son veto. L'autoroute A45 entre Lyon et Saint-Étienne ne se fera pas. La ministre des Transports l'annonce, réjouissant les agriculteurs et les écologistes sur place, crispant certains élus, vous l'entendrez. Nous reviendrons aussi sur les perquisitions mouvementées chez des membres de la France Insoumise, dont Jean-Luc Mélenchon, le chef de file. Il s'en est pris aux représentants de la police et de la justice. Une stratégie pensée, nous dira un politologue. Et puis dans cette édition, nous ferons le bilan du sommet sur le Brexit qui s'est tenu hier soir à Bruxelles. Au menu, aucune avancée et beaucoup de déceptions. Le gouvernement abandonne donc l'autoroute A45 entre Lyon et Saint-Étienne. La ministre des Transports l'a fait savoir hier. Le gouvernement préfère en fait se concentrer sur les axes autoroutiers existants et le ferroviaire, des investissements à 400 millions d'euros. Le projet de cette autoroute était défendu par le président de la région, Laurent Wauquiez, et notamment par Georges Ziegler, le président du département de la Loire, qui ne cache pas sa déception.
Quand on est prêt à mettre 400 millions d'euros sur des palliatifs, des emplâtres sur des jambes de bois, c'est un camouflet qui est fait aux élus, mais pas seulement aux élus, c'est-à-dire à toutes les femmes et tous les hommes qui habitent entre Saint-Étienne et Lyon et qui ont besoin de cette liaison. Je rappelle simplement que la 47, c'est 400 accidents par an. Je crois que l'État n'a pas pris en compte la mesure de cette infrastructure.
Une infrastructure qui aurait dû passer à proximité ou sur des terres agricoles et sur des vergers, contre laquelle se battaient les opposants depuis 25 ans. Maxime Combe, l'un des membres de la coordination des opposants et membre de l'association Attaque, était satisfait hier soir. Il attend maintenant des garanties de l'État.
L'abandon de la 45 est une grande nouvelle. C'est une victoire des opposants. Ensuite, ce que nous disons, et qu'il ne suffit pas d'abandonner la 45 et de promettre quelques rafistolages de dernière minute sur l'autoroute existante et la ligne de TER, il faut aller beaucoup plus loin et proposer un véritable plan B qui permette de résoudre l'ensemble des problèmes de mobilité et de transport sur le territoire concerné, et ce qui nécessite des mesures un peu plus ambitieuses que simplement des petites mesures qui pourraient être prises à Givors et sur la ligne de TER.
Voilà pour les premières réactions et interviews réalisées par Mélodie Vialet de France Bleu Saint-Étienne-Loire. C'est à 11h tout à l'heure que Jean-Luc Mélenchon doit se rendre dans les locaux de la police judiciaire de Nanterre. Il sera entendu dans le cadre des enquêtes préliminaires qui ont abouti aux perquisitions mouvementées d'avant-hier. Enquête sur les soupçons d'emplois fictifs en lien avec des députés européens de la France Insoumise. Enquête aussi sur de possibles anomalies dans les comptes de campagne de l'ancien candidat à la présidentielle. Avant d'être entendu donc ce matin, des locaux et dans son domicile notamment et le siège du mouvement La France Insoumise, ces locaux ont été perquisitionnés. Jean-Luc Mélenchon s'était alors filmé. Lundi, il était filmé également par d'autres caméras. On le voit bousculer un procureur, hurler sur un policier. Une procédure est ouverte par le parquet. La classe politique a exprimé son indignation devant le comportement de Jean-Luc Mélenchon. Et même dans le mouvement de la France Insoumise, certaines voix s'élèvent. Mais le risque pris par Jean-Luc Mélenchon est calculé en s'attaquant à la police et surtout à la justice. Voilà ce qu'estime Olivier Roucan, politologue.
Disons que il prend un risque, en effet, celui d'apparaître comme un personnage qui peut aller jusqu'au coup de poing, donc un personnage excessif, voire violent, lorsque de besoin. Bon, ce qui renforce le côté agressif de son image, et ça lui a déjà coûté. Sur le plan juridique, il est clair que, par exemple, la perquisition est tout à fait possible, et en rien contradictoire avec le statut de parlementaire et l'immunité qui va avec de Jean-Luc Mélenchon. Donc, il y a sur le plan juridique, il est en tort, et sur le plan politique, il prend un risque.
Est-ce que c'est un risque calculé, selon vous ?
Oui, évidemment, c'est un risque calculé parce que, à jouer les boucs émissaires, il reprend un registre, il a dit quel son camp est assez sensible, c'est celui du parlementaire dans la tradition révolutionnaire qui se dresse contre les abus de pouvoir du pouvoir exécutif, en l'occurrence. Et donc ça, c'est dans la mythologie révolutionnaire, dans la tradition rousseauiste, le souverain parlementaire qui représente la loi, c'est un registre qui permet de mobiliser son camp, et on l'a vu, au moins tous les parlementaires étaient très unis de la France insoumise derrière Jean-Luc Mélenchon.
Le politologue Olivier Roucan avec Stanislas Vazak lors d'une journale de 22h hier soir sur France Culture. C'est une quatrième journée de mobilisation générale ce jeudi, mobilisation des retraités qui sont de nouveau appelés à manifester contre les choix budgétaires du gouvernement, appelés par 9 syndicats au total. La première de leurs revendications est l'annulation de la hausse de la CSG, non compensée pour 60% d'entre eux. La CGT Cheminots dénonce un plan social caché à la SNCF. Selon le premier syndicat de l'entreprise, près d'un millier de postes d'agents de guichet vont être discrètement supprimés dans les gares d'ici mars prochain. Le groupe entend réduire drastiquement le nombre de guichets ouverts en gare et les responsables à la SNCF évoquent des réaffectations internes. Et puis les 21 et 22 novembre prochains, les dates, ça y est, sont actées. Les militants de Force ouvrière seront à la mi-novembre appelés à se prononcer pour élire le successeur de Pascal Pavageau à la tête du syndicat. Pas question de remettre en cause les orientations, la ligne plus dure décidée lors de l'élection de Pascal Pavageau. C'est ce que réaffirmait hier la direction élargie de Force ouvrière. Mais les réformistes du syndicat pourraient se saisir de l'occasion pour relancer le débat. Un sommet de quelques heures à peine et aucune avancée visible. Hier soir à Bruxelles, avant le dîner du Conseil européen, Theresa May a présenté aux 27 une nouvelle version de la position britannique sur le Brexit. La question de la frontière entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande reste sans réponse ce matin, d'où la déception à peine cachée des participants. Bertrand Galichet a assisté à ce sommet pour France Culture.
Ni Theresa May ni les 27 ne parlent d'échec et chacun reconnaît un climat de bonne volonté, mais rien ne permet de sortir de l'impasse. Le constat livré par le président du Parlement européen, Antonio Tajani, après l'intervention de la dirigeante britannique hier soir, est un peu amer.
Il n'y a pas de nouveauté substantielle dans son discours, mais j'ai entendu une volonté politique d'aller de l'avant. Ce n'était pas un discours de rupture.
Même si Theresa May se montre finalement ouverte à une prolongation de la période de transition après le divorce, les discussions patinent, ce que décrit prudemment Emmanuel Macron.
Il est clair que par rapport à la feuille de route qui a été dressée par Michel Barnier, des avancées complémentaires sont nécessaires.
Des termes choisis pour éviter toute confrontation. Sébastien Kurz, le chancelier autrichien dont le pays préside l'Union européenne, tente lui aussi de rester positif.
Je vous avais déjà dit avant cette réunion qu'aujourd'hui il n'y aurait pas de grande percée et c'est effectivement ce qui s'est passé. Je suis comme toujours optimiste, dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois, la question du Brexit sera réglée.
Sans illusion sur les chances d'un accord à court terme, hier soir le sommet final sur le Brexit envisagé à la mi-novembre n'a pas été confirmé.
Bertrand Galichet avec Marcos Darras pour France Culture. Aujourd'hui à Bruxelles, il ne sera plus question de Brexit, mais de politique migratoire. Les dirigeants feront le point sur la coopération qu'ils souhaitent renforcer avec les pays d'origine et les pays de transit des migrants irréguliers. Par ailleurs, hier, dans une interview, le pape François a comparé ceux qui renvoient les migrants en Libye aux nazis et aux fascistes. Le souverain pontife qui reçoit aujourd'hui le président sud-coréen au Vatican, Moon Jae-in, doit lui remettre à cette occasion une invitation à se rendre en Corée du Nord. Invitation transmise au nom de Kim Jong-un, le dictateur nord-coréen. C'est la première fois que le pape François est autant sollicité par des dirigeants asiatiques, Mathilde Imberti.
Le régime de Pyongyang a beau être considéré comme l'un des plus répressifs envers les chrétiens, détenir la Bible revient à commettre un crime, Kim Jong-un se permet d'inviter le pape François chez lui. Quoi de plus habile pour passer pour un homme de paix, sachant que la demande sera transmise aujourd'hui par le président de l'ex-ennemi, la Corée du Sud. Néanmoins, les obstacles sont encore nombreux à l'organisation d'un voyage, selon l'archevêque sud-coréen Lazar Oyu, présent à Rome ce mois-ci pour le synode, l'Assemblée générale des évêques.
Si le pape allait là-bas, ce serait un pas de géant. Pour la paix dans la péninsule coréenne et la reconnaissance de la Corée du Nord comme un pays normal. Mais dans les faits, il y a encore beaucoup de progrès à réaliser. Il n'y a pas un seul prêtre en Corée du Nord et pas de liberté religieuse.
Le pape François caresse depuis le début de son pontificat l'ambition de pousser vers l'Extrême-Orient. Les éléments en ce sens se multiplient. La Corée du Nord, qui n'a pas de relations diplomatiques avec le Vatican, fait un pas en avant. La Chine également, depuis l'accord sur la nomination des évêques. Ainsi, deux prélats chinois ont remis en début de semaine au chef de l'Église catholique une invitation à se rendre dans leur pays, une ouverture sans précédent.
Le pape François a d'ailleurs confirmé qu'il se rendrait au Japon l'année prochaine. De la pluie aujourd'hui sur toute la zone sud de la France, un épisode qui va se concentrer dès la mi-journée sur les Pyrénées. Partout ailleurs, le soleil devrait briller derrière quelques nuages sur les côtes de la Manche. Et les températures seront encore douces avec 15 degrés ce matin en Bretagne et sur le nord, 16 à Paris, Strasbourg, Bordeaux, Lyon, 21 degrés à Marseille.